Comme proposé devant le Seigneur, nous allons donc entreprendre l'étude de l'épître de Jacques. Nous vous invitons donc à lire dans cette épître qui se trouve à la page 183, Nouveau Testament bien sûr. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproche, et il lui sera donné, mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au fond de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Or que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur, il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Or que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation et le riche dans son abaissement, car il passa comme la fleur de l'herbe, car le soleil s'est levé avec sa brûlante chaleur et a séché l'herbe, et sa fleur est tombée et la grâce de sa forme a péri. Ainsi aussi le riche se flétrira dans ses voies. Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car quand il aurait été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevrait la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment.
Ce n'est pas indispensable que nous nous occupions de données générales relatives à cette lettre, pendant un moment en tout cas. Cela nous aidera à mieux la saisir, ses différentes parties, le sens que nous pouvons en retirer, l'application que nous pouvons en faire pour nous. Tout d'abord, il faut nous pencher un peu sur l'identité de l'auteur. Rappelons qu'il y a trois Jacques dans le Nouveau Testament. Il y a tout d'abord Jacques, fils de Zébédée, frère de Pierre, et qui occupe une grande place dans les évangiles. Ne présente pas de difficulté pour l'identifier. Mais le Seigneur a permis qu'il soit passé au fil de l'épée très tôt dans l'histoire du témoignage chrétien, vers l'an 44. On trouve le récit de sa mort dans Acte 12. Hérode, voulant plaire aux Juifs et voyant que leur dessein meurtrier se portait contre les apôtres du Seigneur, a livré au martyr le principal, en tout cas un des principaux d'entre eux. Donc, l'histoire de Jean, fils de Zébédée, est bien vite terminée. Il y a un autre Jacques, c'est le fils d'Alphée, ou le fils de Clopas, le fils d'une sœur de la mère du Seigneur, qui s'appelle aussi Marie. Nous avons plusieurs passages où nous avons la mention de ce Jacques qui est appelé dans l'évangile selon Marc, chapitre 15, Jacques le Petit. Pour le distinguer par sa taille, sans doute, il était petit de taille et on l'appelait, pour le distinguer du premier Jean, Jacques le Mineur ou le Petit. Nous trouvons qu'il est appelé plusieurs fois dans les évangiles, et dans Acte 1, lors de la réunion des disciples, des apôtres, dans la chambre haute, Acte 1, il est encore appelé Jacques le Petit, Jacques le Mineur, fils de Zébédée, fils de Marie, la femme de Clopas ou d'Alphée. Mais à partir du chapitre 12, où Jean l'aîné a été passé au fil de l'épée, nous ne trouvons plus que ce Jacques soit appelé le petit. Il n'y a plus besoin de l'appeler le petit pour le distinguer de 1er Jean, car il n'y a plus que lui qui est en scène, avec un autre Jacques que l'on identifie avec le frère du Seigneur. Ici, pour faire un choix, les opinions sont diverses. Nous ne prenons pas position, sauf que nous avons une préférence, sans doute, mais je citerai le frère Rottier, qui en 1922 a écrit un article sur les 12 apôtres du Seigneur et qui est formel quant au fait que Jacques le mineur est l'auteur de cette lettre. Il est montré dans le livre des Actes, nous n'avons pas cité tous les passages, mais chacun peut les chercher ou les connaît. Il est monté dans le livre des Actes, il est monté dans l'Épître aux Galates comme étant le frère du Seigneur, mais il est montré au même titre que Jacques et que Pierre, même ayant une place de colonne dans l'assemblée à Jérusalem. Alors, petite considération, aide à faire le choix. Peut-on penser que les frères du Seigneur, dont un s'appelle Jacques, bien entendu, Matthieu 13, Matthieu 6, et les listes des apôtres choisies par le Seigneur, peut-on penser que un des frères du Seigneur, qui dans Jean chapitre 7 ne croyait pas en lui, et au contraire manifestait bien peu de révérence pour leur frère, peut-on penser que tout à coup, ils deviennent une colonne dans l'assemblée, soit celui qui est en tête de l'assemblée, occupe une place prépondérante, et soit l'auteur de cette lettre. Par contre, de Jacques le mineur, Jacques le petit, nous n'aurions qu'une seule mention de lui après la mort du Seigneur, c'est-à-dire dans Acte 1. Et puis, plus rien, silence, son histoire paraît terminée. Nous faut donc faire un choix. Jacques est donc celui qui est en tête ici, pour nous, c'est Jacques le mineur, qui est à Jérusalem, qui occupe une place prépondérante parmi les apôtres. Mais nous ne faisons qu'indiquer ce choix pour faire selon notre préférence, choisir entre Jacques le mineur, l'apôtre, ou Jacques, un frère du Seigneur, qui tout à coup occupe une place particulièrement importante parmi les frères à Jérusalem et mis au même titre que des apôtres. Nous ne trouvons jamais que le Seigneur a pris un de ses frères pour l'établir dans cette position. Mais voilà les opinions qui prévalent, mais je dis que le frère Samuel Proudhon, par exemple, est hésitant, le frère Rossier est formel, et les auteurs que nous avons pu consulter sont partagés. Mais nous n'allons pas insister. Alors, quel est le but de cette lettre? Quelle est la date de sa rédaction? Quels sont les destinataires de cette lettre? Il y a là quelques idées qu'il faut un peu exploiter avant d'entrer dans le sujet. Quels sont les destinataires de cette lettre? À quel temps cette lettre a-t-elle été écrite? Ce sont des choses qu'il faut savoir pour que nous comprenions bien le sens général de cette lettre, qui est difficile à comprendre, bien qu'elle soit simple, parce que les conditions dans lesquelles elle a été écrite, les conditions qui ont nécessité la rédaction de cette lettre ne sont plus rencontrées aujourd'hui. Ce ne sont plus possibles de les rencontrer aujourd'hui. Nous ne sommes pas des Juifs, nous ne sommes plus à Jérusalem, nous ne sommes pas au commencement du témoignage chrétien, nous nous identifions avec les assemblées telles que Paul en a révélé l'aspect, les conditions, l'appel céleste, etc. Nous nous reconnaissons dans les lettres que l'apôtre envoie aux assemblées, supposons l'épître aux Philippiens, évidemment avec la différence qu'il y a l'épaisseur du temps qui nous sépare de ces assemblées du commencement, mais nous nous trouvons sur le même terrain. Tandis que dans l'épître de Jacques, c'est tout à fait différent. Il faut bien faire attention pour saisir cela. Cela aide beaucoup à comprendre la raison de cette lettre, c'est-à-dire que Jacques écrit à des croyants qui ne sont pas encore sortis entièrement du peuple juif. La date que nous allons essayer de montrer tout à l'heure est une indication à cet égard. Mais on peut tenir pour certain que nous sommes encore dans un moment de transition et les croyants ne sont pas encore sortis de l'enceinte du judaïsme. Et Jacques écrit encore aux 12 tribus comme telles. C'est intéressant de nous arrêter sur ce terme, les 12 tribus, alors qu'il n'y a plus que quelques fragments, notamment les fragments remontés de la captivité babylonienne. Mais pour Jacques, nous le disons en passant, comme pour Élie dans son temps, comme pour l'apôtre, il voit toujours les 12 tribus. Elles ont été mentionnées au début, elles sont ici dans un temps de ruine profonde, comme elles seront présentes dans un jour à venir. Le prophète Ézéchiel, chapitre 47, chapitre 48, nous montre bien qu'il y aura les 12 tribus d'Israël autour du Seigneur. Donc, Jacques s'adresse aux 12 tribus, à l'ensemble du peuple juif, dans lequel il distingue des vrais croyants qui occupent une place particulière dans son esprit, dans ses affections, et qui sont distingués de la masse en les appelant mes frères, vos frères. Tandis que pour les autres, il y a une autre manière de parler qui distingue essentiellement la masse de ceux qui sont encore, qui sont devenus, si vous voulez, un petit reste, un petit résidu fidèle, et qui marchent comme marchaient les disciples pendant que le Seigneur était encore sur la scène. Quel est le but de cette lettre? Il faut noter que l'ennemi n'a pas tardé, dans les premières années du christianisme, à s'attaquer au témoignage du Seigneur. Et il y a dans cette lettre, on constate bien le danger d'un ralentissement des affections. On n'est pas loin du début, mais il y a déjà des riches et des pauvres, déjà un esprit d'envie, ce que nous ne trouvons pas au début dans le livre des Actes. Chacun estimait ne plus avoir droit à des préférences personnelles et les biens étaient partagés entre tous. Pas d'égoïsme, c'était un temps de fraîcheur, un temps de commentant. Ce n'est déjà plus la même chose au temps de Jacques. De plus, chose importante et capitale celle-là, Jacques écrit en raison de faux docteurs qui enseigne déjà le contraire de ce que Paul, ou en tout cas une déviation de l'enseignement de Paul. C'est-à-dire que ces faux docteurs disent, mais avec la foi ça suffit, il n'y a pas besoin d'œuvres, vous savez bien que l'apôtre Paul nous a montré que nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres, et que c'est la grâce de Dieu. Il y avait donc ce grand danger pour les croyants, dans les conditions que nous venons d'essayer de développer devant vous, de recevoir cet enseignement et d'être relâché quant à la pratique du christianisme. C'est pourquoi Jacques insiste avec tant d'autorité, tant de pression sur eux pour leur faire montrer, le mot n'est pas tout à fait juste, pour leur montrer que la pratique du christianisme était la preuve d'une foi réelle. Et qu'il était impossible de tenir pour chrétien quelqu'un qui se serait tenu sur le terrain que nous venons d'esquisser. Donc, les Nicolaïtes sont déjà à l'œuvre pour dire aux chrétiens, il ne faut plus vous occuper des œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Alors, la marche chrétienne est de peu d'importance, nous avons la foi, nous sommes sauvés. Vous voyez, l'apôtre donne un enseignement contradictoire de Paul, pas du tout. Luther a pensé que c'était une épître désagréable et qui ne méritait pas beaucoup d'audience dans les Saintes Écritures. Il l'appelait une épître de paille. Il n'avait pas compris que loin d'avoir une contradiction entre Paul et Jacques, il y avait un complément, il y avait une manière de montrer avec Paul l'entièreté de la foi. Non seulement la foi qui sauve, la foi au Seigneur Jésus, sans les œuvres, mais les œuvres qui manifestent à l'extérieur la réalité de cette foi. Nous n'allons pas insister davantage, nous avons essayé de vous montrer qui était Jacques, quels étaient les destinataires, quel était le but de cette lettre, et la date aussi, elle est fort controversée. On la situe, certains exégètes, et peut-être pas des moindres, la situent entre 45 et 49. Comme date de rédaction. Notre cher frère JMD, dans son introduction, la situe plus tard dans l'histoire du témoignage. Alors, que devons-nous chercher? On dit qu'il n'y a pas la trace du colloque de acte 15 dans cette lettre. Il n'y a pas le fait que le danger est pressant, comme dans l'Épître aux Hébreux, de se retirer du peuple de Dieu. Il n'y a pas encore question de sortir du milieu d'eux. Ils vont encore à la synagogue, il y a encore cette, cette, cet ensemble qui subsiste jusqu'au moment où le Seigneur va le visiter par le jugement. En fait, comme il en est pour nous aujourd'hui, nous sommes au milieu d'une église protestante et le Seigneur désire de la réalité dans ceux qui pratiquent, qui manifestent, qui disent qu'ils ont la foi. Et le Seigneur va juger cette profession, mais évidemment épargner le résidu, comme il en était dans ces jours-là. Le Seigneur allait juger les 12 tribus, c'est un dernier appel qu'il envoie aux 12 tribus, qui est, lui, ne s'adresse qu'aux élus, aux croyants parmi les 12 tribus, mais Jacques s'adresse encore à tout l'ensemble, comme Nahum dans l'Ancien Testament, comme Jonas, qui s'adresse de façon générale à des nations, à des entités qui allaient être bientôt visitées par le jugement. Vous voyez ? Alors, la date, c'est aussi un sujet controversé, mais il n'y a pas besoin que Jacques fasse un rappel de ce qui s'est passé à Jérusalem. Il ne l'a pas oublié, bien sûr, et cela n'est pas très ancien. On pense que Jacques écrit dans les années 60, 62, tout au plus tard. À partir de martyr, lorsque le souverain sacrificateur Ananias était encore en scène, vers 64. Mais, dernier point, nous disons, il n'a pas besoin que Jacques fasse appel au témoignage du colloque du concile de Jérusalem en acte 15. Pourquoi ? Il y a une raison. Parce que Jacques écrit à des juifs. Le sujet d'acte 15 concernait les croyants pris d'entre les gentils. La controverse qui avait pris naissance dans ces conditions. Mais pour les juifs, il n'y a pas besoin de ce témoignage, de rappeler ce témoignage. Il n'y a pas de saison pour les juifs à qui Jacques écrit au milieu des 12 tribus. Sauf que, bon, il y a d'autres choses aussi que l'on met en avant pour la situer avant ou après, mais nous retenons que l'appréciation de JND est sans doute la meilleure. Vers la fin du témoignage, du témoignage chrétien, avant la fin de Jérusalem, dans les années 60 environ, eh bien nous avons donc l'épître de Jacques, et déjà nous cessons notre petite introduction par cette considération, déjà il y a déjà un grand danger. L'apôtre doit veiller à ce que cet amour manifestant la vie de Dieu, soit ranimé, soit maintenu, et d'autre part, le maintien de la sainte doctrine, l'amour et la vérité.
L'auteur de l'épître est soit le frère du Seigneur, soit Jacques le mineur. Et une raison complémentaire qui nous empêche de conclure définitivement est le fait que l'épître de Jude a été écrite par le frère de Jacques et qu'il se trouve que dans ces deux familles, il y avait un Jacques et un Jude. En particulier, les frères du Seigneur Jésus selon la chair, qui sont mentionnés en particulier à la fin de Matthieu 13, sont clairs. Il y a aussi un Jude, frère de Jacques. Alors, le point essentiel, c'est de voir que Jacques ait été le fils d'Alphée ou le frère du Seigneur Jésus. Dans le premier cas, il était apôtre, dans le deuxième cas, non. Il se présente ici, non pas sous le caractère d'apôtre s'il l'était, mais sous le caractère d'esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la position bénie que prend le cher apôtre Paul, le grand apôtre des nations, lorsqu'il s'adresse à des individus ou lorsqu'il s'adresse en particulier aux Philippiens ou à Philémon. Cette épître a une place particulière dans le Nouveau Testament. On a remarqué que tous les écrits du Nouveau Testament pouvaient se classer en cinq parties. C'est un pentateuque. C'est le pentateuque du Nouveau Testament. Et chaque partie correspond à l'un des cinq livres de Moïse. La similitude est tout à fait remarquable. La Genèse d'un côté, à la Genèse, le commencement, la révélation de toute chose dans le début, correspondrait les évangiles, qui est le commencement, le fondement même du christianisme. Ensuite, dans l'Exode, c'est la rédemption, le peuple sorti d'Égypte, et le peuple constitué comme peuple de Dieu. À ceci correspond le livre des Actes, qui nous présente le peuple de Dieu sorti du monde est constitué comme un peuple, comme une assemblée de Dieu sur la terre. Alors, le peuple traverse un désert avant que Dieu l'établisse et le plante sur la montagne de son héritage. Auparavant, il lui donne la loi, le commandement divin. Ce commandement est donné par Dieu, par Moïse, au peuple au Sinaï. C'est le Lévitique. Et pour nous, le fondement, la doctrine même du christianisme se trouve dans les épîtres de Paul, sauf les Hébreux, et l'épître, la première épître de Jean, qui correspondrait à cette troisième partie du Lévitique. Alors on dit tout à l'heure, le peuple traversant la mer Rouge doit passer le désert pour entrer au-delà du Jourdain dans la terre promise. C'est la marche du désert. Alors il y a les épîtres maintenant du désert. On retrouve l'épître aux Hébreux. Si elle est de Paul, c'est la 14e. Et puis les épîtres de Pierre, de Jacques, de Jude. Voilà les épîtres qui correspondent à la marche au désert. Ce sont des épîtres qui considèrent le chrétien comme un pèlerin en route vers la terre promise et vers le repos. Et puis à la fin, le Deutéronome, c'est la scène finale, la conclusion de l'histoire d'Israël, et l'Apocalypse correspond à la 5e partie du Nouveau Testament, c'est la scène finale. Il est tout à fait remarquable que nous regardions maintenant ensemble, à pâturage même, cet épître de Jacques qui fait suite à l'épître aux Hébreux, qui est une des épîtres du désert. Elle s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Elle s'adresse globalement à ces 12 tribus en distinguant au milieu d'elles ceux qui sont croyants, qui sont des vrais chrétiens. Mais avec l'épître aux Hébreux, elle présente une différence importante. L'épître de Jacques n'invite pas les croyants juifs à sortir hors du camp. Mais au contraire, elle leur donne les instructions qui leur sont nécessaires pour glorifier Dieu, pour manifester les principes même du christianisme maintenant dans un système autrefois ordonné de Dieu qui avait son temps et qui allait être effectivement jugé lors de la destruction de Jérusalem. Alors qu'en Hébreux 13, au contraire, les croyants sont invités à sortir hors du camp vers Christ portant son opprobre, alors qu'ils étaient invités au chapitre 10 à entrer vers lui par le chemin nouveau. Donc les deux choses sont vraies. Dans la mesure de lumière qui nous est fournie par Dieu, et l'Écriture est cette lumière, nous sommes invités à nous séparer de tout mal, sortir vers Christ hors du camp. En même temps, nous ne pouvons pas sortir de cet ensemble du monde chrétien. Nous sommes là au milieu de ce monde. Alors nous avons besoin des ressources, de la grâce et des lumières divines pour nous montrer comment nous pouvons honorer Dieu au milieu même de ce système. L'Épître s'adresse à 12 tribus, notre frère vient de le dire. Comme Élie, sur la montagne du Carmel, répare l'autel de l'Éternel qui avait été renversé avec 12 pierres selon le nombre des tribus d'Israël. Non seulement l'unité extérieure du peuple était perdue à ce moment-là, puisque les 10 tribus avaient été transportées en 2 rois 17 par Shalmaneser, roi d'Assyrie, et l'unité du peuple était non seulement perdue après le schisme au moment de Roboam, mais la trace même des 10 tribus était perdue au milieu des nations. Et c'était les 2 tribus de Juda et de Benjamin remontées à la transportation qui était celle qui était particulièrement responsable de la mort du Messie. Eh bien, dans la pensée de Dieu, il y avait un seul troupeau, un seul berger, un seul peuple. Et c'est à ce peuple que l'apôtre Jacques fait référence, comme autrefois Élie sur la montagne du Carmel, ou plus récemment, le cher apôtre Paul, en acte 26, lorsqu'il s'adresse à Agrippa en disant qu'il parlait des 12 tribus, des 12 tribus de ce peuple. Elles étaient dans la dispersion. Notre cher frère, M. Jules Kim, quand il était parmi nous, pour notre joie à tous, nous expliquait avec tellement de puissance et de clarté ce qu'était cette dispersion. La dispersion, elle est mentionnée d'ailleurs aussi dans l'épître de Pierre, qui partage avec l'épître aux Hébreux et l'épître de Jacques, qui est placé devant nous, justement ce caractère d'une des épîtres du désert. Le Seigneur, il en est question, sauf erreur, en Jean 7 de cette dispersion, en se demandant verset 35. Les Juifs donc dirent entre eux, où celui-ci va-t-il aller que nous ne le trouverons pas? Va-t-il aller à la dispersion au milieu des Grecs et enseigner les Grecs? Quelle est cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où moi je serai, vous, vous ne pouvez venir. Alors le peuple juif était, particulièrement les 10 tribus d'Israël, étaient dispersés parmi les nations, et c'était une des conséquences de leur infidélité, de leur abandon de la loi de leur Dieu. Dieu leur avait dit dans le Deutéronome, leur avait dit, voilà, si vous n'obéissez pas à mon commandement, eh bien je vous disperserai, vous serez perdus d'entre les nations. Mais en même temps que l'assurance du gouvernement de Dieu, c'est solennel, comme conséquence de l'infidélité et de la chute du peuple, la dispersion, il y aurait un jour où Dieu reprendrait les relations avec son peuple, un jour où l'Oami et l'Orukama ne seraient plus écrits sur le front du peuple, et où Dieu rassemblerait à nouveau. Je les rassemblerai d'entre toutes les nations pour en constituer à nouveau un peuple pour lui. C'est un temps qui est complètement à venir dans le moment où Jacques écrit, et pour nous encore maintenant. Ce qui était devant l'histoire de ce peuple à ce moment-là, c'était non pas le rassemblement autour de Christ comme le seul berger, c'est un temps prophétique qui est encore lointain pour le peuple d'Israël maintenant, mais c'était la destruction de Jérusalem. Et notre frère l'a dit tout à l'heure, cette épître a été écrite, ce qui la rend peut-être difficile à saisir dans sa position, elle a été écrite dans cette phase intermédiaire de l'histoire de l'Église sur la terre et de l'histoire du peuple, où les deux histoires ont cohabité. L'histoire du peuple d'Israël n'était pas tout à fait terminée. Il restait probablement 20 à 25 ans encore de cette histoire, lorsque la destruction de Jérusalem a mis fin judiciairement, de façon finale, à l'histoire du peuple d'Israël sur la terre à ce moment-là. L'Église était déjà formée. Elle a été formée après la mort de Christ et sa résurrection, la descente du Saint-Esprit sur la terre le jour de la Pentecôte, elle a été formée en acte 2. Et pendant cette période, donc d'environ 40 ans, Dieu maintenait encore des relations extérieures avec son peuple terrestre et avait déjà formé l'assemblée sur la terre. Cette assemblée était une assemblée juive, dont le centre était Jérusalem. C'est au moment de la dispersion qui a suivi la mort d'Étienne que les croyants ont été dispersés. L'assemblée de Jérusalem a survécu quelque temps, mais l'évangile a été prêché dans toutes les nations et des assemblées ont été formées ici et là dans le monde. Alors Jacques s'adresse à cette assemblée particulièrement de Jérusalem, ces croyants juifs, zélés encore pour la loi et pour les ordonnances, qui étaient effectivement, qui faisaient partie du peuple de Dieu sur la terre et qui avaient encore des relations avec Dieu d'ordre juif en rapport avec le peuple terrestre. C'est la raison pour laquelle il y a mention à la fois des privilèges célestes, peu d'ailleurs, mais en même temps de la réalisation que l'Esprit est avec eux, l'Esprit est mentionné je crois au chapitre 4, et en même temps les croyants sont zélés pour les ordonnances juives, ont encore des relations avec la synagogue et avec le temple, avant que celui-ci ne soit détruit. Un caractère de cet épître donc, c'est qu'il s'adresse à ces croyants juifs dans cette période transitoire depuis la création de l'Assemblée sur la terre jusqu'à la destruction de Jérusalem, et c'est une épître qui comporte des enseignements qui poursuivent sans les compléter. L'enseignement était complet. L'enseignement du Seigneur Jésus sur la terre, c'est le même terrain. On trouve tout à fait le même ordre de choses que ce que le Seigneur Jésus a enseigné, en particulier sur le discours sur la montagne. On marque plusieurs béatitudes dans cette épître. Bienheureux l'homme qui endure la tentation. Vous êtes bienheureux. Nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. C'est quelques-unes de ces béatitudes du royaume terrestre ou céleste de Matthieu 5. C'est pour ainsi dire la continuation de ce que le Seigneur Jésus avait enseigné sur la terre en spiritualisant les ordonnances de la loi de Moïse. Nous sommes sur ce terrain-là. Mais en même temps, le peuple est reconnu comme le peuple de Dieu, et Dieu est connu comme un Père. D'ailleurs, le Seigneur l'avait déjà enseigné, « Votre Père céleste sait toutes les choses dont vous avez besoin ». Ici, Dieu est reconnu comme un Père. Le Père des Lumières nous envoie tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait, d'où descendent ces choses.
Dans ce sujet, sur ce sujet, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que Dieu voit les 12 tribus de son peuple indépendamment des conditions dans lesquelles ils se trouvent. Au temps de l'apôtre Paul, quand il comparaîtra devant ces grands de la terre, il dira auquel l'espérance d'Israël, nos 12 tribus, espèrent parvenir. Pour l'apôtre, il y avait toujours 12 pains sur la table d'or dans le tabernacle, et cette unité est indivisible. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Alors je voulais seulement citer trois passages intéressants. Le premier, c'est dans Genèse 49. On voit, dès le départ, comment Dieu appelle la famille de Jacob, les 12 tribus. C'est un fait très important. Il dit, au verset 28, « Tous ceux-là sont, Genèse 49, verset 28, « Tous ceux-là sont les 12 tribus d'Israël. » Jacob vient d'énumérer les conditions dans lesquelles ils vont se trouver, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et puis, quand Dieu a donné par Jacob, le patriarche, tout ce qui concerne son peuple, il dit, l'Esprit de Dieu dit, tous ceux-là, les 12 fils de Jacob, sont les 12 tribus d'Israël. Au départ, pendant que Jacob est encore sur la scène, Dieu parle des 12 tribus. Lisons maintenant dans Exode 28, un second passage intéressant, où nous avons précisément la robe, le vêtement sacerdotal par excellence. Donc le peuple est sorti d'Égypte, nous l'avons entendu, il est constitué comme le peuple de Dieu, le tabernacle est en train de se construire, s'il n'est pas terminé. Et dans le chapitre 28, Aaron doit s'approcher avec ses fils pour représenter le peuple d'Israël. Et alors, pour le représenter, il porte 12 pierres sur le pectoral, sur le cœur d'Aaron continuellement, sur le cœur d'Aaron continuellement, et 2 pierres sur les épaulières de l'éphod, avec chacune ayant la gravure de 6 noms des fils d'Israël en gravure de cachet. Donc, les 12 pierres, chacune avec un nom des fils d'Israël sur le pectoral, la poitrine des affections et sur les épaules, la force, faut-il le dire. Alors nous trouvons dans Exode 28 cette mention, verset 21. Et les pierres seront, selon les noms des fils d'Israël, 12 selon leur nom, en gravure de cachet, chacune selon son nom, elles seront pour les 12 tribus. Donc 12 pierres pour les 12 tribus au moment où le peuple commence son histoire au désert. D'abord en Jacob, ensuite, bien plus tard, au milieu du peuple de Dieu, lorsqu'Aaron se présente devant Dieu avec ses vêtements pour gloire et pour ornement et les 12 pierres sur son épaule, sur ses épaules et sur sa poitrine. Donc c'est le début du peuple de Dieu. Maintenant, on va passer une grande période de temps, mais on voit que dans les livres du rétablissement de la captivité, eh bien, les dons de Dieu savent bien, se retiennent. Malgré tout, malgré la ruine qui est intervenue et à laquelle plus rien ne peut porter remède, qu'il y a 12 tribus. Nous n'avons pas entré dans ces détails, mais nous le savons bien. Alors nous arrivons maintenant à demain, à ce qui va se passer demain. Et nous lisons dans le prophète Ézéchiel, le rétablissement des conditions du peuple de Dieu dans ce jour-là, Ézéchiel, chapitre 47 et chapitre 48, on peut le lire. Nous avons donc les 12 tribus qui sont les familles de Jacob et qui sont donc devant Dieu, chacune selon son nom, chacune appelée selon son nom d'origine. Et les 12 tribus seront réunies. Et ainsi, dit Paul, tout Israël sera sauvé. Donc la conclusion, vous voyez, depuis le commencement, plus tard dans le peuple de Dieu, lorsqu'il commence son histoire, lorsque cette histoire est saccagée par la ruine du peuple et qu'elle est mise, elle est jetée par terre, pour les hommes de Dieu, il y a toujours 12 tribus. Paul le confirmera dans le livre des Actes en disant, nos 12 tribus, si on m'a demandé, mais où sont-elles? Elles sont perdues, personne ne peut les retrouver. Les frères ont pensé, plusieurs, les croyants des frères aussi ont pensé pendant la guerre de 40, que les nations anglo-saxonnes étaient les descendants des 10 tribus. Mais professeur Tapernoux, Philippe Tapernoux, a écrit 2-3 articles très intéressants, bien charpentés, sur la destination des 12 tribus. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'elles sont perdues. Mais Dieu les retrouvera sans que le moindre d'entre eux demeure parmi les nations. Il est écrit ça dans Ézéchiel 40 et quelque chose. Dieu n'en laissera pas un seul de reste parmi les nations. Dernier petit point que je voulais citer, c'est avec les croyants dans la synagogue. Nous lisons dans Actes 9, il y a d'autres passages, mais celui-là suffit pour fixer notre attention. Saul, au verset 1er, s'en va donc au souverain sacrificateur et demande pour Damas des lettres, verset 2, adressées aux synagogues. Et Paul a demandé donc pour Damas, où il y avait des synagogues, ce sont les lieux assignés pour le service. Nous reviendrons peut-être sur le mot, sur la signification du mot synagogue. Congrégation, assemblée d'Israël et l'assemblée chrétienne. Mais ce n'est pas du tout la même chose, faut-il le dire. Mais nous ne compliquons pas le sujet pour le moment. Paul a demandé au souverain sacrificateur des lettres d'introduction, de patente pour aller à Damas. Pour que faire? Vous voyez, nous lisons dans ce verset 2, à Damas des lettres adressé aux synagogues en sorte que s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie, il les amena hommes et femmes liés à Jérusalem. Donc, il était possible, Paul le savait, et c'était déjà de cette manière établi en Judée et en Jérusalem, que Paul a trouvé dans les synagogues des gens qui retenaient la voie, c'est-à-dire qui appartenaient au Seigneur.
Tombé sur la nation juive, je vais comprendre comment Jacques parle du monde, parle des chrétiens opprimés, etc. Quand vous serez dit que c'était le dernier appel aux 12 tribus juives, c'est le dernier appel à la profession chrétienne. C'est l'épître de Jacques. Le jugement va tomber sur cette chrétienté dont nous avons bien sûr les désignations particulières dans les sept épîtres d'église, dans les sept épîtres aux églises. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a permis de choisir l'épître de Jacques, c'est-à-dire pour la pratique de ceux qui demeurent attachés au Seigneur et qui ne peuvent pas et qui ne savent pas se retirer de ce qui est la confédération, pas la confédération, la religion chrétienne entière. Voilà les pays de Jacques. On ne va pas, bien sûr, dans les réflexions qui vont suivre, on ne va pas parler du judaïsme. La question est de savoir, d'une manière pratique, comment il faut achever la course en demeurant cependant à bien sûr, ça ne vaut pas sortir de la profession de Dieu. Mais au milieu de cette profession de Dieu, il y a un risque fidèle, marchant pratiquement comme le Seigneur nous l'a dit.
C'est que la venue du Seigneur y est présentée comme terme. C'est que la venue du Seigneur y est présentée comme terme et du témoignage et des souffrances et des peines du croyant ici-bas. C'est le sujet du cinquième chapitre. Et les caractères que nous avons à manifester en rapport avec cette venue. Dire un mot sur les cinq sujets des cinq chapitres, là, Le premier chapitre nous parle du Père comme étant la source de tout don, de tout ce qui nous est donné de bon, toute la bonté. Dans le chapitre 2, c'est le Seigneur qui est glorifié. Les œuvres ne sont pas le moyen de la foi ni du salut, mais au contraire, l'expression pratique que la foi existe, est en activité. C'est une preuve de la foi et non pas un chemin pour la foi ou pour le salut. Le troisième chapitre nous parle de la sagesse d'en haut, de l'intelligence qui nous est donnée de la part de Dieu. Elle se termine par le fruit de la justice. Dans le chapitre 4, le Seigneur est vu comme étant dans les croyants, ce qui caractérise justement l'état chrétien à partir de la venue du Saint-Esprit sur la terre le jour de la Pentecôte, dans l'Assemblée, comme temple de Dieu, et dans les croyants dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, l'Esprit demeure en nous, chapitre 4, le verset 5. Et au chapitre 5, alors, c'est l'avenue du Seigneur, le terme des peines, le terme solennel du jugement pour les riches, le terme de ceux qui travaillent comme le laboureur et qui attend, et puis dans l'attente de cette venue, nous avons à manifester les caractères qui conviennent à la venue même de celui que nous attendons.
Le Père comme apôtre, il motive son être en s'intitulant « Esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Et nous l'avons entendu tout à l'heure, tous les apôtres, indistinctement, ont pris ce titre d'esclave. Paul, Jacques, Jean, Apocalypse chapitre 1er, savons que le Seigneur l'invite comme esclave à donner à ses compagnons la révélation de ce qu'il va apporter. Jude aussi s'appelle esclave. Donc, tous les apôtres, en écrivant aux saints, ont pris ce nom d'esclave. Esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers amis, nous faut nous arrêter un instant sur cette expression parce qu'elle n'est pas banale, elle n'est pas vulgaire. Et les apôtres, bien qu'ils soient nantis d'une position d'élévation, ont aimé prendre cette position d'abaissement. Pourquoi ? Ils ont aimé s'appeler apôtres, s'appeler esclaves, autrement dit, faisant la volonté d'un autre, quoi qu'il en coûte, renonçant à leur propre volonté pour obéir à quelqu'un dont ils reconnaissent l'autorité. Et cela, sans anticiper, entraîne de la souffrance. C'est pourquoi nous avons tout de suite après, et mes frères, estimez-le comme une parfaite joie, parce que être esclave, obéir, implique de la souffrance, indiscutablement. Faire abstraction de sa propre volonté pour réaliser celle d'autrui au-dessus de nous demande du renoncement, de la souffrance. Alors, quelque chose de très beau, c'est que ces apôtres s'appellent l'esclave. Chapitre 42, pardon. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Seigneur, viens donc comme le serviteur hébreu, chapitre 21 du livre de mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Je prends le joug volontairement à la gloire de Dieu et pour l'accomplissement des desseins qu'il a formés. Voici mon serviteur en qui mon âme trouve son plaisir. Voyons encore le chapitre 52 du prophète Ésaïe, et nous allons voir une seconde fois, verset 13, voici mon serviteur, le prophète, s'enhardi, bien qu'il ait encore à 750 ans, se trouve encore à 750 années avant la naissance du Messie, mais il n'y a personne qui a fait cela. Il n'y a pas d'exemple que le prophète peut prendre. Mais il s'enhardit par le fil de Dieu, sachant qu'il n'en sera pas autrement. Voici mon serviteur, il agira sagement. Il est mon élu, en lui j'ai trouvé mon plaisir, et il va agir sagement. Et l'Épître aux Philippiens nous donne ce détail, étant en forme de Dieu, n'étant pas autrement que Dieu, étant égal avec Dieu, Eh bien, il a voulu s'abaisser lui-même, s'anéantir lui-même, prenant la forme d'esclave, étant tiré en figure comme un homme, et s'abaissant toujours plus jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Nous comprenons pourquoi l'apôtre aime prendre ce titre d'esclave.
Dans le chapitre 15 de l'évangile selon Jean, nous entendons le Seigneur dire « Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave, dit-il, ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai ouï de mon père. Je ne vous appelle plus esclave. » Mais comme notre cher frère vient de le dire, combien il est frappant de voir que tous ces apôtres et ces serviteurs de Dieu ont pris le nom d'esclave en écrivant aux assemblées. Pierre, particulièrement Siméon Pierre, esclave et apôtre de Christ Jésus. Jude aussi. Jude aussi prend le titre d'esclave. Ainsi que Paul, comme nous l'avons entendu. Il est beau de voir cela. Et dans cet épître de Jacques, d'une manière particulière, parce que Jacques s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Jacques, si c'est un frère du Seigneur, nous pouvons dire que c'est une preuve de grande humilité chez lui de prendre ce titre d'esclave de Jésus-Christ. Jésus était son frère dans la chair. Si c'est le fils d'Alphée, comme on le pense aussi, eh bien, c'est donc le cousin du Seigneur, le fils de sa mère. D'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est l'humilité qui est mise en avant ici. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et comme notre cher frère Jean l'a dit tantôt, eh bien, on voit que Jacques s'adresse particulièrement à Israël. Mais il y a une grande analogie avec le temps que nous vivons. Aujourd'hui encore, nous vivons au milieu d'une chrétienté, une chrétienté professante qui a la forme de la piété et qui en a renié la puissance. Mais au milieu de cette chrétienté, eh bien, il y a des croyants, il y a des fidèles, il y a des enfants de Dieu. Et on comprend très bien que Jacques s'adresse tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Dans le chapitre 5, par exemple, lorsqu'il dit au verset 8, « Nettoyez vos mains, pécheurs », au chapitre 4, pardon, chapitre 4, verset 8, lorsqu'il dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous, qui êtes double de cœur. » Ceux qui sont doubles de cœur, on le comprend. Et je pense que ce sont les professants, on peut les appeler comme cela. Ceux qui ont la religion, mais qui n'ont pas de réalité. C'est une profession sans vie. Alors Jacques s'adresse à eux, ce que Pierre ne fait pas. Pierre parlera d'eux, mais il ne s'adressera pas à eux directement. Dans la seconde épître de Pierre, nous voyons que Pierre s'adresse aux croyants, mais lorsqu'il parle aux professants, il ne parle pas directement à eux, mais il parle de leur caractère. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 20, au chapitre 2, verset 20, « Car si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première, car il leur est mieux valu, dit-il, d'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce que dit le proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi lui-même, et la truie l'avait à se vautrer au bourbier. » Pierre s'adresse à des juifs croyants qui savaient très bien que ces animaux étaient des animaux impurs. Donc ce sont des gens ici qui n'ont pas la vie. Ils ont une profession, mais ils n'ont pas la réalité. Mais c'est une grâce merveilleuse de Dieu, n'est-ce pas? Et nous pouvons résumer au fond l'épître de Jacques par ce verset que nous trouvons à la fin de Romains 10 et au commencement du chapitre 11. Tout le long du jour de l'Éternel, j'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. Et voilà que un homme s'adresse à ce peuple. La grâce de Dieu va jusque-là. Après s'être détourné de leur Dieu d'une manière violente, comme le prophète Jérémie leur dit, ils se sont violemment détournés de moi. Après avoir rejeté le Messie, eh bien Dieu se souvient encore des promesses faites au Père. Et la grâce de Dieu leur adresse encore ce message. Par le moyen de Jacques, par le moyen de l'apôtre. C'est une manifestation de la grâce de Dieu envers son peuple, mais c'est aussi des enseignements précieux pour chacun de nous. Et c'est un prend-garde aussi pour ceux qui n'ont pas la vie tout en ayant le nom d'être chrétien.
Je mets seulement le terme salut. C'est une expression de bienveillance, de salutation d'ordre général. Elle est employée d'abord par les apôtres et les anciens de l'Assemblée de Jérusalem lorsqu'ils envoient une lettre à Antioche, portée par Barnabas et par l'apôtre Paul, pour s'occuper de cette question qui menaçait la division dans l'Église. Alors ils disent, voilà, les apôtres, les anciens de Jérusalem, aux frères réunis à Antioche, salut. C'est une expression de bienveillance générale. Il y a aussi, au point de vue individuel, lorsque ce gouverneur écrit au chéliarque Lysias, il dit salut dans cette note qu'il écrit, il l'appelle et il dit salut. Alors nous avons ici trois fois le mot salut. Mais il faut un peu chercher et nous dire que il y a quand même un fond de vérité et un fond observé à l'égard de cette appellation. Parce que l'apôtre Jean nous dit dans sa deuxième épître qu'il y a des gens qu'il ne faut pas saluer, auxquels il n'est pas question de présenter le salut, c'est-à-dire une marque d'affection, une marque d'égard, une salutation bienveillante. Celui qui n'apporte pas la sainte doctrine, eh bien, il ne faut pas le recevoir dans votre maison et ne le saluez pas ou ne réalisez pas avec lui ce que « salut » ici voulait dire par Jacques.
On est dans le livre des Actes, une explication de ce qu'il en est de tous ces Juifs qui avaient cru et où il est dit quand même qu'ils étaient zélés pour la loi. Chapitre 21. Il dit, tu vois, frère, combien il y a de milliers de juifs qui ont cru, et ils sont tous zélés pour la loi. On devait peut-être un peu comprendre ce qu'il en était des difficultés de ces juifs, qui devaient mettre la loi de côté pour accepter le Seigneur et de vivre selon les dispositions chrétiennes. D'un autre côté, il était dit aussi en acte 6, qu'il y avait une grande foule de sacrificateurs, je pense. La parole acte 6. La parole de Dieu croissait, un nombre de disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Il était donc là toute une conciliation, à la fois, pardon, merci. Il était donc là tout un problème à résoudre, et je crois que Jacques va y mettre un peu ce qu'il en est du plan d'écriture. Une autre expression qui m'a frappé dans la lecture, c'est qu'on rencontre à chaque chapitre et plusieurs fois dans les chapitres l'expression « mes frères ». On pourrait les citer, chapitre 1er, verset 2, chapitre 2, verset 1er, chapitre 3, verset 12, et plusieurs fois encore, au chapitre 5, frères, et « mes frères » en terminant, verset 19, que ce soit juif, mais plutôt que ce soit envisagé comme étant des frères dans le Seigneur. 12 fois.
Sur le titre d'esclave qui nous est donné ici, ce que c'était des esclaves volontaires. Ils étaient autrefois esclaves du péché, comme nous, nous étions esclaves du péché. Ils avaient été rachetés, et maintenant ils s'étaient mis volontairement au service du maître. C'était donc des esclaves volontaires. Ils n'avaient plus aucune volonté, et ils voulaient réaliser pleinement la volonté du maître qui les avait rachetés pour les rendre libres.
Dans Acte 21 montre bien que c'était une chose normale et qui avait acquis une audience bien connue. Beaucoup de juifs qui obéissaient à la loi et qui étaient toujours en relation avec le temple, avec les anciennes coutumes. Mais déjà du temps du Seigneur, le petit résidu qui le suivait était déjà dans ces conditions. Et dans Jean 12, nous disons que toutefois, plusieurs d'entre les chefs même crurent en lui. Jean 12, verset 42. Il y avait déjà quelques croyants qui avaient suivi le Seigneur. Un exemple, entre autres, Nicodème. Quelques-uns avaient la foi, bien que Nicodème ne se soit pas manifesté, mais plusieurs des chefs avaient cru en lui. Et nous avons donc cette continuation de ce groupe qui était attaché au Seigneur. Nous les avons plus nombreux, de plus en plus nombreux, dans le temple et dans les synagogues où les juifs se réunissaient, ce qui était un lieu assigné pour le service selon le livre des psaumes.
Le titre d'esclave, plusieurs fois dans ces épîtres, dans l'épître aux Romains, parce que justement, on change de maître par la foi au Seigneur Jésus-Christ. On échappe à la servitude de Satan et on a Christ comme Seigneur. Et le caractère que les apôtres prennent comme esclaves est, il me semble, en général lié à la fin de la dispensation, lorsque justement, globalement, le monde refuse l'autorité de Christ. Dans les temps de la fin, dans les temps du déclin, Paul se nomme même prisonnier de Jésus-Christ à Philémon. Il est esclave quand il était en prison et qu'il écrit aux Philippiens. Pierre s'adresse dans la première épître, en prenant son titre d'apôtre, comme pour ainsi dire accrédité de la part du Seigneur Jésus pour dire ce qu'il disait, et dans la seconde épître, il est esclave et apôtre, esclave parce que justement, dans l'ensemble, on avait rejeté le maître qui nous avait acheté. C'est-à-dire qu'on rejetait l'autorité de Christ comme Seigneur. Est-ce pas exactement ce qui arrive dans le monde chrétien aujourd'hui? Dans quelle mesure le monde chrétien reconnaît-il l'autorité de Christ comme Seigneur? Eh bien, il est d'autant plus nécessaire de manifester pour nous maintenant l'obéissance à celui à qui nous reconnaissons cette position bénie de Seigneur.
Alors il semblerait bien que Jacques défende cette position de ce qu'il était en tant que juif, mais aussi chrétien, esclave de Jésus-Christ, et les deux s'associent parfaitement.
Je crois que c'est la seule chose qui commence par Dieu.
Bien en rapport avec Dieu, il n'y a pas d'hésitation pour eux. Et maintenant, ensuite à ce que notre frère a dit, estimez-le comme une parfaite joie, au verset 2. Il s'agit donc maintenant d'obéir dans la position d'esclave. Mais nous l'avons dit déjà tout à l'heure, cette situation comporte du renoncement, de l'effacement, de la souffrance, de l'oubli de soi pour accomplir exactement la volonté de celui qui a des droits sur nous. Alors cela ne va pas sans difficulté, mais c'est un encouragement. Estimez-le, mes frères, estimez-le comme une parfaite joie, mes frères. Loin de considérer la souffrance comme une opportune, comme quelque chose qui contrarie notre vie et qui est de nature à nous remplir de mécontentement, c'est un sujet de joie. Hier, nous étions avec des amis à l'AS, et nous étions justement occupés à ce passage de Romains 5, où dans le même cadre, même optique, l'apôtre parle de la patience qui produit donc Dieu, qui produit des circonstances difficiles, la tribulation, pour produire la patience. Là, les tribulations sont le cadre dans lequel Dieu produit la patience, une vertu si difficile, si rare à observer pour soi-même. Alors, estimez-le comme une parfaite joie, une joie complète. Alors, note, il y a aussi quelque chose où toute, estimez-le comme une toute joie. Il n'y a donc rien à écarter, il n'y a donc rien à enlever, c'est une joie qui est complète en elle-même. Estimez-le comme une joie à laquelle vous ne pouvez rien enlever et qui ne supporte aucune addition. Elle est complète en elle-même. Estimez-le comme une chose complète, joie parfaite d'être en but à diverses tentations ou épreuves venant de toutes parts. La tentation ici est l'équivalent de ce que nous trouvons dans Corinthiens 10, l'épreuve, les difficultés, tout ce qui nous éprouve, tout ce qui nous atteint, tout ce qui nous brise, est une épreuve qu'il faut considérer comme une parfaite joie. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations. Évidemment, ici, il n'a pas le même sens que le verset 12, le verset 13, que nul, quand il est tenté, ne dit « je suis tenté par Dieu ». Ce n'est pas le même sens, c'est une variante qu'il ne faut pas confondre. Que nul, quand il est tenté, c'est-à-dire quand la convoitise agit en lui, qui a pris source dans son cœur, il ne faut pas qu'il dise que Dieu me tente. C'est une chose absolument impossible, parce que Dieu n'est pas en aucune manière en relation avec le mal pour le produire chez autrui. Nous verrons ça un peu plus tard. Mais maintenant, estimez-le, c'est intéressant pour nous. Chers amis, nous avons beaucoup d'épreuves aujourd'hui, de malades, des choses difficiles dans les assemblées, la faiblesse qui nous atteint. Que d'épreuves nous atteignent aujourd'hui. Mais estimez-le comme une joie complète, à laquelle rien ne manque, quand vous serez ainsi traité, quand vous serez ainsi confronté avec les tentations ou les épreuves.
Côté dans les versets 2 et 12, et de l'autre côté dans le verset 13, mon frère vient de le dire. La tentation des versets 2 et 12, à diverses, vous serez en but à diverses tentations. Verset 12, l'homme qui endure la tentation, cette tentation-là est produite depuis l'extérieur. Ce sont les circonstances extérieures, Satan peut se déchaîner, mais Dieu est toujours derrière, qui produisent l'épreuve de la foi, qui est dans la main de Dieu, désignée pour nous faire du bien, pour nous apprendre ce que nous sommes et ce qu'il est lui, dans sa fidélité. Et puis comme nous sommes encore dans la chair, dans le corps, descendant d'Adam, lié à la première création, nous ne sommes encore que péchés en nous-mêmes. Il y a la cohabitation dans le croyant des deux natures. Et la mauvaise, la chair qui est en nous, peut être mise en action de l'intérieur. Le caractère de la chute de Satan, c'est qu'il a trouvé en lui-même la source de sa propre chute. Et il utilise maintenant toutes sortes d'art dans sa main pour nous faire tomber. C'est une tentation qui effectivement est de l'extérieur, mais qui trouve une réponse à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsqu'il est tenté, ne dise « je suis tenté par Dieu », Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente personne. Chacun est tenté, étant attiré, amorcé par sa propre convoitise. C'est donc le côté intérieur, alors que les tentations des versets 2 et 12, c'est le côté extérieur. Seigneur, il est dit, lorsqu'il est avant l'entrée dans son ministère, il a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable. C'est la même pensée que cette épreuve qui a été évidemment en lui l'expression, la manifestation parfaite de sa perfection. Dieu n'a rien, Satan n'a rien rencontré en Christ qui ne fût perfection et bien et sainteté parfaite. Et comme nous sommes encore dans cette cohabitation des deux natures, le danger est pour nous de nous laisser entraîner. Alors, nous n'avons évidemment jamais à imputer à Dieu ce fait que nous sommes engagés nous-mêmes par nos propres tentations. Mais nous sommes invités sur la prière dominicale que le Seigneur a enseignée à ses disciples, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » C'est-à-dire, « Seigneur, permet que nous ne soyons pas placés dans des circonstances où, justement, la chair qui est en nous nous conduirait à fléchir et à tomber. »
Dans Genèse 22, qui fait bien comprendre ce que nous avons entendu maintenant, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Mais Dieu n'a pas tenté Abraham dans le sens que notre frère a précisé. Et justement, dans notre, nous avons Dieu, même mot que tenter. Dieu éprouva ou tenta Abraham. Mais c'était en vue d'une épreuve de foi pleine de bons fruits pour lui.
Deux expressions de l'épître aux Hébreux en rapport avec le Seigneur. Hébreux 2, verset 17. Car en ce qu'il a souffert lui-même, c'est pourquoi il dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux, fidèle sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Alors, au chapitre 4, au verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Le Seigneur a connu cette épreuve, cette tentation. Mais dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Matthieu, nous le voyons en but à toutes ces épreuves, à toutes ces tentations, eh bien nous le voyons se réjouir. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères. Le Seigneur, au lieu de se laisser abattre, de se laisser décourager par les circonstances, se réjouit dans les tentations. Et il élève ses regards en haut et il dit, je te loue, ô Père. Connaissons tous ce passage, Seigneur du ciel et de la terre. Est-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents? N'est-ce pas un bel exemple de la joie dans l'épreuve donnée par le Maître lui-même? Alors nous en avons d'autres. Dans le livre des Actes, nous le voyons les croyants se réjouir dans l'épreuve après avoir été battus dans le Sanhédrin. Dans le chapitre 4 du livre des Actes, nous voyons les apôtres sortir se réjouissant d'avoir été estimé digne de souffrir pour le nom. Et dans Acte 16, nous voyons deux apôtres en prison, Paul et Silas, qui chantent après avoir été battus sur la place publique, jetés en prison sans aucun ménagement. Sur le minuit, lisons-nous, bien Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu.
Les Hébreux nous montrent que la tentation de l'extérieur, dans le croyant, rencontre la faiblesse humaine. La nature humaine en elle-même n'est pas mauvaise, c'est la chair qui est mauvaise. De sorte que le Seigneur est notre ressource suprême en rapport avec cette faiblesse parce qu'il est le souverain sacrificateur. Il a traversé tout ce que la nature humaine peut connaître, peut supporter, peut endurer. Il l'a traversé victorieusement. Maintenant, il se repose. Mais maintenant, il travaille parce que dans le ciel, il nous représente devant Dieu comme le souverain sacrificateur autrefois représentait le peuple devant Dieu. Et de sorte qu'il est en rapport avec nos faiblesses, au milieu des épreuves et des tentations de la vie présente, un souverain sacrificateur devant Dieu. L'autre côté de la tentation, l'épreuve intérieure, la tentation intérieure qui rencontre la chair, si Satan est reconnu comme ce qu'il est, nous la traversons victorieusement, cette tentation. Si nous fléchissons, nous avons besoin des ressources de la grâce. De sorte que le même Christ dans la gloire, qui est le souverain sacrificateur en rapport avec nos infirmités, pour nous aider à traverser les peines et les souffrances de la vie présente, prend alors cette place bénie, bien très humiliante pour nous, de l'avocat pour restaurer devant le Père la communion qui a été interrompue si nous avons manqué de vigilance et si cette communion avait été interrompue par le péché qui est en nous.
Tout en étant affligé maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, afin que l'épreuve de votre foi soit trouvée tournée à louange et à gloire et honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Il semblerait que vaincre dans les tentations extérieures aura une manifestation publique à la révélation du Seigneur. On pourrait citer des cas de tentations extérieures. Quelles seraient-elles, par exemple? La faim, le combat pour la vérité, être emprisonné pour sa foi. Tentation intérieure, nous n'en parlerons pas, chacun est amorcé par sa propre convoitise. C'est lui aussi quand ceux de Babylone sont venus. Et il y avait là, semble-t-il, une tentation intérieure, il est tombé. Une parfaite joie dans les vides de pierre, ça peut être futur.
Belle, une courte réflexion. Est-ce que nous avons bien posé le verset? Estimez-le comme une parfaite joie. On peut se demander, lorsque soumis à ces tentations, à ces tribulations, nous ne sommes pas plutôt portés à murmurer. Ici, estimez-le comme une parfaite joie. On se sent repris dans son cœur. Et pourtant, les Hébreux, on l'a vu ici il n'y a pas longtemps, dans le chapitre 10, dans l'Épître aux Hébreux, ils ont assisté avec joie à l'enlèvement de leurs biens. Notre frère Jean vient de citer le premier chapitre de la première Épître de Pierre, l'épreuve de votre foi. Des tentations, des tribulations, et pourtant, nous ne pensons pas qu'il se trouve dans l'Écriture une expression qui parle d'une telle joie que dans la première épître de Pierre, justement, à la suite de ce que notre frère vient de dire, vous vous réjouissez d'une joie ineffable, de glorieuse. Bien-aimés, si nous pouvions retenir ce que nous venons de lire, estimez-le comme une parfaite joie.
Mais que tu ne dis pas, c'est une parfaite joie, pas du tout, quand vous serez en but à diverses tentations. Mais, chers frères, chers sœurs, dans la souffrance, il y a une estimation à faire. Estimez-le. Savons ce que c'est qu'une estimation. L'estimation ne vient qu'après une mûre et sérieuse réflexion. Et la suite du verset, on nous dit pourquoi. Il est l'heure.
Thank you. quatrième strophe du...